Mais moi, je vais faire par. Quand on m'a demandé de faire cet hommage à Claude Seignol, qui est vraiment non seulement un grand ami, mais l'architecte de mon destin, c'est-à-dire que je pense que jamais je n'aurais écrit, jamais j'aurais publié il y a 20 ans, c'est pas mon truc, etc., si je ne l'avais pas rencontré. Voilà. Et je l'ai lu, Claude Seignol, très jeune. Je vais mettre avec vous, parce que là, vous n'avez pas besoin de ces lumières. Je l'ai lu, Claude Seignol, très jeune. Et il se trouve que c'était, j'ai lu son folklore, bien entendu, j'ai lu ses romans, ses nouvelles, et j'étais du coup sous le charme de son travail. Quand vous allez me poser la question de savoir s'il était vivant, mort, peu importe, il était juste avec elle. Et un jour, je suis arrivée dans une autre bibliothèque, ici en Vincent, dans les Hauts-de-Seine, et là, j'avais prévenu une petite, pour savoir si on avait fait un comic book, machin, tout ça, puis quelqu'un me dit, ben, j'en trouvais qu'on a un truc sur Claude Seignol, il est à côté. Je suis super impressionnée. Hein. Et donc, du coup, comme j'étais très impressionnée, j'appelle un copain journaliste, un petit canard, un petit appartement, et je lui dis, voilà, il y a un petit Seignol, il habite à Robinson, à la gare de Robinson, dans les Seine, petit immeuble. Ça serait bien de faire un article sur lui, dans le journal, et puis tu demandes un entretien, et puis tu viens avec une assistante. Tu appelles, on fait un article, Claude dit oui, et il dit, je serai accompagné. D'une assistante, et Claude lui répond, c'est exactement lui, désolé monsieur, je ne reçois pas les groupes. Et en fait, c'est vrai, dans ce grenier dans lequel il reçoit ses très rares invités, il les reçoit à l'unité. À l'époque, sur le canapé de Jean Ray, que lui avait donné Jean V, et donc il donnait les reliques après. On avait vraiment le truc rouge en sky du canapé, la relique du canapé du canapé de Jean Ray. Et donc, voilà que ça a commencé comme ça. Et après, on lui a dit, mais si, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et donc, du coup, il est venu me voir à la bibliothèque, l'histoire a commencé. Et puis, j'ai commencé à travailler, il voulait plus écrire, il m'a renvoyé des éditeurs, j'ai commencé donc, du coup, à publier, à faire ses préfaces, parce qu'il n'a plus envie de faire les préfaces, enfin bon, voilà, et j'ai écrit deux bouquins sur lui, donc L'honneur de compte, et après Seignol, batteur de chimère, après toute une grande série d'entretiens. Voilà, et pour rendre un hommage donc à Claude Seignol, le mieux c'est de le faire parler, parce qu'il parle beaucoup mieux que moi, vous allez voir. Et donc Claude Seignol, quand il raconte son enfance, il écrit un petit texte qui s'appelle « Une enfance sorcière ». Et voilà ce qu'il dit. Il dit « C'est à Périgueux, dans un Périgord truffé du passé le plus ancien, celui des civilisations longtemps dites hantées diluviennes, que ma mère me porta en ventre, de septembre 1916 au 25 juin, c'est bientôt, 1917, à 15h très précises, les trois coups d'horloge frappant l'étoile de la basse ville et annonçant le lever du rideau sur le spectacle que j'allais jouer dans la vie. Chaque jour de sa croissante grossesse, elle se livra à de vaillants exercices pédestres, car jamais elle n'a su tenir en place, et promena le docile fœtus que j'étais, l'imprégnant d'ambiances extérieures, qui décidèrent de mes goûts futurs, tant il est vrai qu'un embryon, subit non seulement l'héritage chromosomique, mais encore les influences, le milieu et les humeurs d'autrui. J'affirmerai donc que ce fut là, là et là, que je pris intramater les premiers frissons du mystère et les virus de l'archéologie. J'arrivais sous le signe rongeur mais fécond des aventuriers, le cancer, et gesticulais à défaut de parole pour déjà décrire l'épopée fétale que je venais de vivre, débarquant dans les bras d'Augusta, ma grand-mère, le seul être de la famille qui croyait possible les histoires impossibles et qui dut sentir tout de suite le petit complice que sa fille lui offrait pour combler sa solitude de croyance. C'est donc dans cette enfance périgourdine qu'il dit avoir trouvé le terreau, dans lequel il va planter toutes ses histoires, ses romans et ses nouvelles. Mais pendant nos entretiens, un jour, je l'interroge sur ses souvenirs d'enfance, savoir bon, si c'est vrai tout ça, et il me répond. Si vous me posez des questions sur le Périgord, c'est très dangereux, car je sais que je vais vous fabriquer des souvenirs d'enfants qui porteront les masques de l'adulte que je suis devenue. C'est le cas de ma première visite à Frisson, celle de Château d'Évêque dans les environs de Périgueux, alors que je n'avais que 6 ans. Ce souvenir me semble encore très présent, je le décris avec une mémoire mi-adulte, mi-enfant. Je peux dire qu'à l'intérieur d'une oubliette gisaient des lambeaux d'étoffe mêlés de gros cailloux ronds et blanchâtres, mais dans mon esprit d'enfant, c'était quelque chose de prodigieux. Dans une enfance sorcière, je raconte cette histoire en l'enjolivant, je dépeins les restes osseux, squelettes, parfaitement conservés d'un groupe de soldats anglais de la guerre de 100 ans, une demi-dizaine de prisonniers malchanceux, suppliciés, etc. etc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu. Si j'y retournais, on me dirait peut-être qu'il n'y a jamais rien eu. Ce serait terrible. Comment ? Vous avez gagné des millions parce que vous avez cru que vous aviez un coffre garni d'argent ? Vous racontiez à tout le monde, ah là, j'ai des diamants qui viennent de mon oncle, qui a été fonctionnaire en Inde, qui a fini par être secrétaire de Maharaja, j'en ai hérité. C'est une cassette que je ne veux pas ouvrir tout de suite, qui est dans mon coffre, à la banque. C'est faramineux. Il y a des joyaux extraordinaires. Et à partir de là, on s'est mis à me prêter de l'argent. Et puis un jour, on ouvre la cassette et il n'y a rien. Mais je suis tellement riche des intérêts que j'ai perçus pour rembourser tout le monde et conserver l'argent. Des souvenirs à partir desquels j'ai créé mes nouvelles relèvent pour moi de ce type de combinaison. Alors, dans ce Périgord, Claude va surtout s'intéresser aux pierres dans un premier temps. Donc il va ramasser beaucoup de cailloux, on est dans le Périgord, donc dans un lieu très, très riche en artefacts préhistoriques. Donc il va vraiment collecter des pierres et s'attacher véritablement aux pierres. Et donc cet attachement aux pierres, il va en parler dans une nouvelle, vous avez peut-être lu, qui s'appelle « La main de pierre ». Et j'avais pris un extrait de cette nouvelle parce que je trouve ce texte, d'abord j'y adhère 100%, et je le trouve absolument magnifique. Il dit « Une obscure affection me lie aux pierres, que j'aime autant pour leur dureté que pour leur sensibilité, pour leurs secrets que pour leurs aveux. Moi qui toujours cherchais à les comprendre. Petits os de la terre, galets ou éclats jaillent de la rivière ou de la montagne, portant les signes, les marques de mystérieux messages que la nature ou l'homme ont confiés à leurs flancs, qui les gardent mieux que le bois ou le papier à jamais. J'aime la permanence, l'éternité de la pierre, et je vais vers tout, guidée par une sorte d'instinct qui m'aide à choisir celle qui ont à dire, à me dire. Privilège qui me les fait d'abord caresser, comme pour les mettre en confiance, puis les écouter dans leur passé et aussi leur devenir, que je lis parfois au mien, rassurée par leur force énigmatique. Pierre que la terre-mère a caressée bien avant nous, les signants de patines lustrées, vernis de noblesse auxquels ma peau prend les frissons du temps, corps et esprit naturellement liés à des rites hérités de la longue et indispensable recherche première, celle de la pierre pour vivre, souci journalier de nos ancêtres, à la dure poursuite de la fécondité. Donc à 14 ans, Claude va monter à Paris avec son père, qui a une entreprise de textile. Et là, il va continuer à s'intéresser aux pierres, il va fouiller un petit peu autour de lui. Et puis il va rencontrer un organisme qui est la Société préhistorique de France. Et là, le jeune homme de 14 ans va réussir à se faire introduire et parrainer par l'abbé Breuil et par Teilhard de Chardin à cette Société préhistorique de France. Et donc, c'est là qu'il va rencontrer alors l'acteur majeur, on peut dire, de son œuvre, lui, un architecte aussi du destin, encore une belle rencontre, celle de Arnold van Gennep. Alors, Arnold van Gennep, c'est c'est le plus grand des folkloristes, on peut dire, français, puisque c'est le seul qui a eu une chaire de folklore, technologie, comme on dit aujourd'hui, il a écrit une somme qui s'appelle le manuel du folklore français contemporain. Voilà, donc il y a plusieurs, au départ il y en avait 12, ça a été ramené, ça existe toujours chez Bouquin. Le manuel de folklore français, où il détaille tête par tête toutes les traditions, etc. Et donc il rencontre Van Genève. Et là, Van Genève lui explique que les pierres, c'est bien, mais que le problème, les pierres, elles seront là encore. Même dans quelques siècles, elles seront là. On pourra toujours aller les chercher, les pierres. Par contre, il y a des choses qu'on ne pourra plus aller chercher. C'est ce qu'il y a dans la mémoire des gens. C'est toutes ces personnes qui détiennent encore un savoir folklorique, de contes, de légendes, de traditions, de croyances, qui vont disparaître et ce savoir va disparaître avec. Or, il se trouve qu'au XIXe siècle, cette préoccupation est très présente, puisque c'est à cette époque que partout en France, à l'image des frères Grimm en Allemagne, partout en France, il y a des personnes de bonne volonté, hein, des médecins, des fermiers, des notables, avocats, machin, juges, qui vont se mettre à collecter, c'est-à-dire à aller dans les veillées, à aller dans les lieux, rencontrer les vieilles personnes dans leur canton ou autour, pour ramasser les vieilles recettes anciennes de magie populaire, les croyances de la vie collective, du village, etc. Et qui vont faire cette nouvelle science qu'on va appeler folklore, connaissance du peuple. Et le mot sera ensuite employé en France, on les appelait les antiquaires, et puis après les traditionnistes, après on les a appelés les folkloristes. Et donc Van Genève lui dit, à juste titre, au XIXe siècle, tout n'a pas été collecté. Les gens ont collecté dans leur canton, dans leur coin, mais en Bretagne par exemple, il y a une dizaine de grands collecteurs, donc on est très riche sur la Bretagne, on l'est beaucoup moins dans le Midi, le Languedoc avait quasiment pas été collecté. La région parisienne, le Hurepoix, le Vexin, etc., n'avait pas été collecté. Et donc, Van Genève dit à Claude, plutôt que d'aller collecter les pierres, vous allez aller collecter les gens. Et donc, avec son frère, Jacques, ils vont partir tous les deux, ils vont faire le tour des 137 communes de la Seine et de l'ancienne Seine-et-Oise, et ils vont publier le folklore du Hurepoix, qui sort en 47, je crois. Et c'est d'ailleurs pendant ce périple que son frère Jacques va attraper une maladie qui était en vélo, il avait mis du papier journal qui est humidifié, il va mourir. Et ce frère Jacques, c'est lui. Et Claude était très très admiratif de ce frère, parce que lui, c'était le mauvais élève de la classe. C'était celui qui... Voilà, donc tout d'un coup, il se retrouve seul. Van Genève, jusqu'à la fin de sa vie, il est habité pour la reine, s'en voudra, se reprochera la mort de ce garçon. Et pour Claude, voilà, tout d'un coup, il y a un vide et c'est lui qui va devenir l'écrivain de la famille. On fait des résumés. Hein. Alors, au cours de ces enquêtes folkloriques, il va rencontrer, effectivement, il va rencontrer le diable, il va rencontrer tout un tas de superstitions qui vont servir après à ses nouvelles et à ses romans. D'ailleurs, il le dit dans un texte, il dit « J'ai pris à la terre la plus grande partie de mon œuvre, elles ne sont pas à moi, ces histoires, elles sont aux paysans, elles sont... voilà. » Et il va en plus ajouter à ces histoires, effectivement, sont des histoires qu'on aurait pu avoir, qui auraient pu être vraies, des histoires de la campagne, il va y ajouter sa langue, c'est-à-dire une façon de dire qui est une façon... moi, je dis toujours, il a une langue païenne, c'est-à-dire que les verbes deviennent tout d'un coup... les corps, enfin, les objets deviennent tout d'un coup vivants, les cordes sans colère, les... Voilà, c'est une langue animiste et c'est exactement la langue de ce qu'il raconte sur les superstitions, les traditions, etc. Alors j'avais noté juste un petit texte sur le diable qui était rigolo parce que en même temps il est barré là-dedans. J'avais sa fille aînée au téléphone il y a 2-3 jours et qui me disait. J'ai souvenir qu'on fait un numéro spécial pour son centenaire dans une revue qui s'appelle La Grande Oreille, des compteurs. Et elle me disait, J'ai souvenir de papa, toutes les semaines, il y avait un salon à la maison, et venait, alors il y avait Jacques Vergier, il y avait Poès, il y avait, bon, c'était le matin des magiciens, il y avait tous les ésotérismes de Paris qui étaient là, et ça refaisait le monde de l'ésotérisme, etc. Ensuite, il avait comme ami Eugène Poncelier, qui est un des derniers grands alchimistes, ses filles allaient, machin. Donc il était complètement, mais en même temps c'était un homme qui avait des affaires à côté et qui était hyper équilibré, et voilà ce qu'il dit d'ailleurs du diable, et ça c'est bien lui aussi, je l'entends le dire, je me fous du diable, ça c'est ce qu'il dit dans un entretien. Dans le jeu de mes curiosités, le diable, le bon Dieu, les sorciers, les guérisseurs sont des éléments forts qui font bander mon esprit. L'angélisme ne m'intéresse pas. Je laisse ça au conte de fées et à la collection Harlequin. Le diable, je le mets de mon côté. Je préfère que l'on pense que je suis un diable plutôt qu'un enfant de cœur. Je suis un diable. Je suis le copain des sorciers, le copain des monstres. Mais je suis le copain des monstres pour qu'ils me fassent pas mal. J'ai fait en sorte de leur servir le casse-croûte afin qu'ils ne me mangent pas, je ne les combats pas, je les glorifie. Sans eux, que seraient mes histoires ? Et ça, c'est vraiment tout à fait cool. Qu'est-ce que vous connaissez ? Vous voulez que je continue comme ça ? Ou il y a des choses particulières ? Non, ça vous va ? Bon, d'accord. Donc, sa passion pour le, on va dire, le merveilleux, plus que le fantastique, parce qu'à l'époque, c'est plus le merveilleux, les contes, même s'ils sont un peu fantastiques, parce que les récits des paysans, on y trouve effectivement des récits, des contes, lors des veillées, mais aussi ce qu'on appelle des mémorats, c'est-à-dire que quand on se retrouve à la veillée, alors là on n'est plus dans le 19e et la fin du 19e, hein, mais Claude n'est pas si loin, quand on se retrouve à la veillée, d'abord, la veillée, c'est l'hiver, quand le soleil commence à tomber, la nuit arrive, il est 17h, 17h30, c'est pas l'heure de manger la soupe, c'est pas l'heure de se coucher, et en même temps, il va falloir avoir de la lumière et il va falloir avoir chaud. Et tout ça, ça coûte cher. Donc, pour partager la chaleur et la lumière, tout le monde se réunit dans l'étable de l'un, dans la grange de l'autre, et puis on continue, on ébogue les châtaignes, on égraine le maïs, on file la laine, enfin bon. Et puis, on est tous ensemble et on raconte des histoires. Donc il y a toujours un qui est plus fort que les autres qui va raconter, alors on raconte des blagues, hein, beaucoup, on chante aussi, mais on raconte des histoires. Et puis il y a les mémoras, ces mémoras qu'on va beaucoup retrouver, dont je me suis beaucoup servi pour quelques bouquins. Et les mémoras, c'est... Vous savez, vous êtes autour d'une table et puis vous parlez surnaturel, fantôme, machin. Il y a toujours quelqu'un à la table qui va dire, oh, c'est moi alors. Et ma tante, il paraît qu'un jour, elle est dans le château de machin et elle a vu une dame blonde. Eh bien, c'est ça, les mémoras. C'est quelqu'un dans l'assistance qui dit, mais vous savez, madame Antel, vous rappelez qui était là, la mère de machin, etc. Eh bien, elle en a vu un loup-garou. Mais je vous le dis, elle l'a vu. Et puis voilà qu'on raconte. Et puis, l'histoire qui s'est racontée, qui a été déformée, s'est re-racontée. Hein, et voilà, et on continue à raconter cette histoire de loup-garou, et on va retrouver après cette histoire de loup-garou. Et donc, Célion, dans ses collectages, il va trouver tout ça. Von Genève, lui, aime pas trop le surnaturel. D'ailleurs, il est mort avant de faire la partie surnaturelle, c'est un hasard, mais il aime pas trop ça. Mais Claude, lui, il aime ça, donc lui, il va ramasser tout ce qui est surnaturel. Et c'est comme ça qu'il va donc écrire ses nouvelles. Enfin, c'est roman d'abord et c'est nouvelle. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, le voilà, le texte. J'ai pris à la terre la plus grande partie de mon œuvre. Elles ne sont pas tout à fait à moi, ces histoires. Je les ai empruntées aux paysans. Je ne fais qu'en profiter au passage, y accolant mon nom, lequel risque de disparaître avec la transmission, comme ont été oubliés les noms de ces milliers de gens qui, tour à tour, ont remodelé les vieux contes populaires, y greffant leur façon de dire. Ces romans, s'ils sont ancrés dans le terreau du Périgord, il va quand même les écrire en Sologne et les placer en Sologne. Pourquoi ? Parce que quand il revient de prison, en 44, d'incarcération, enfin pas de prison pendant la guerre, hein, il n'était pas... il était prisonnier, et quand il revient de prison, il se retrouve en Sologne, il se réfugie en Sologne, et c'est en Sologne donc qu'il va placer le cycle qu'on appelle le cycle des malédictions. Il y a deux cycles dans l'œuvre de Seignolle, un cycle paysan, les malédictions, un cycle citadin, la nuit des âmes, où les histoires se passent à Paris. Et donc, le premier roman de Claude dans le cycle des malédictions, qui sera publié en 1945, c'est Le Rond des sorciers. Je passe bien, c'est ça pour l'article. Et donc, il écrit, j'ai écrit Le Rond des sorciers avec des soloniaux, ne me rendant pas compte qu'en même temps, j'étais un périgourdin et un corrézien, un homme de rock, un homme de contes et de légendes, fait beaucoup plus pour les huguenots d'Écosse. Et j'ai donc donné à des filles comme la malvenue, dont on parlait tout à l'heure, une chevelure brune, un faciès de loup. C'est une fille âpre, dure, qui se défend comme dans un terrier des vallées de la Vézère et de la Corrèze. Ensuite, d'une femme qui dit avoir le don de guérir les morsures de loup depuis l'âge de 2 ans, il va tirer le livre Marie la Louve, qui est le plus connu parce qu'il a été adapté pour les enfants, il a été adapté pour la télévision aussi. Il sort en 1947. Claude dit que dans cette histoire, l'entrée du meneur de loup, qu'il situe lui à la fin de l'hiver 1870, en fait, il l'a écrit en se souvenant de l'entrée des soldats allemands un jour, de juillet 44 à Sainte-Montaigne. Et il écrit, ce jour-là, nous fixâmes la fenêtre. Et il écrit dans un livre qui raconte ça, qui s'appelle La Gueule, et qui après s'appellera Les Loups Verts. Ce Claude, ce qu'il aime, c'est pas écrire, mais ce qu'il a écrit, il aime bien le changer, machin, mettre des nouveaux titres, enlever un bout, remettre, ça, il aime bien. Nous fixâmes la fenêtre et nous vîmes d'abord dans le flou du réveil, s'écrasant contre le grillage, 3 visages délavés, amollis par la pluie. Très fondus, bouche entrouverte, féroce. 3 têtes d'hommes casqués qui baignaient dans l'eau bleue et fumante du grand aquarium céleste. 3 faces immobiles, sévères et autoritaires. Ensuite, nous aperçûrent leurs armes, des mitraillettes posées à plat sur le bord de la fenêtre, face à nous. Pointé, prêt, des loups verts. Et il ajoute que, quand on en parle, tous les deux, il me dit, en fait, je me suis souvenu longtemps de ces soldats, ils étaient 7, et c'est pour ça que dans Marie la Louve, le meneur de loups a 7 loups. Voilà, petite anecdote. La malvenue, dont on parlait tout à l'heure, il dit « La malvenue, c'est 5 ans d'écriture, 500 pages pour en extraire 200. Elle est donc prête pour se battre avec le temps, car celle-là et mes autres diablesses en sabots ou en louve appartiennent à la mémoire du monde. » Ensuite, il écrit un autre roman qui s'appelle « Le diable en sabots », publié en 1959. Et ce roman, il l'écrit après avoir vu le maréchal Ferrand, dans son village de Sologne, là, de Sainte-Montaigne. Il le voyait tous les matins, il l'entendait taper sur l'enclume, et tout ça lui donne l'idée. Alors, à l'époque, dans cette région et dans d'autres aussi, le maréchal Ferrand, qui a été particulièrement maudit pendant la grande période de la chasse aux sorcières, à la Renaissance, hein, 16e et début du 17e siècle, on lui disait l'allié du diable parce qu'il maniait le feu, mais il guérissait les enfants des maladies de la rate et du ventre. Et en fait, il les guérissait, c'est une recette qu'on retrouve un peu partout en France, il posait les enfants sur l'enclume, et on appelait ça le martelage de la rate, et il faisait semblant d'un grand coup comme ça, c'est des bébés qui paniquaient, et il faisait semblant comme ça d'écraser le ventre des enfants en tapant, machin, et les guérissait. C'était... ces guérisseurs-là étaient des maréchaux Ferrand, qui faisaient le martelage de la rate. Et on le retrouve beaucoup dans le Midi, ça, un petit peu moins dans le Nord, mais beaucoup dans le Midi. Et donc, évidemment, il le sait, donc il a entendu ces histoires-là, son imaginaire s'envole, et il va en faire le personnage principal du diable en sabot. Et ensuite... Le Galou, qui est le dernier des livres, qui est presque une longue nouvelle, petit roman, des malédictions, qui est absolument remarquable. Je ne veux pas dévoiler, parce que rien que le début du Yalou, c'est le début du Yalou, c'est le Yalou qui parle. Je suis que les hommes. Ah ouais, non, non. Ah oui, mais absolument. C'est absolument magnifique. Ben, j'avais porté là, mais là, bon, c'est pas fait, mais je voulais commencer par la lecture d'une nouvelle aussi de ce seigneur qui s'appelle La Huche, qui est une nouvelle affreuse, et puis aussi, ben là, pareil, il y a un machin, c'est un coup, on est pris par tout. Donc voilà pour le cycle des malédictions. Ensuite, il y a le cycle de la nuit idéale, qui est différent. Donc, il y a le Bahut noir, par exemple, qui sera publié en 58, qui a pour cadre la place des Vosges. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, parce que si jamais vous le lisez, que là, je dis dans mon texte, mais c'est pas le cas. Mais c'est l'histoire d'un meuble très particulier. Ensuite, il y a un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle La brume ne se lèvera plus. On voit un déserteur qui erre dans Paris et il se passe des choses un petit peu curieuses dans l'église Saint-Merry, etc. Et ce livre-là, il va le dédier à Gérard de Nerval. Alors, Claude, il a voulu créer une légende autour de lui, surtout à partir de l'âge de 50 ans. Il est sorti nulle part. Il a refusé tous les interviews, tous les plateaux de télé, tous les machins. C'était l'ermite de Robinson. Il recevait des gens à l'unité. Et alors, il crée la légende autour de lui. Et quand il a sorti, donc, La brume ne se lèvera plus, il a remarqué, en allant au cimetière du Père-Lachaise, que la tombe de Gérard de Nerval était assez abîmée et qu'il y avait une espèce de trou sur le côté qui s'était formé. Une espèce de creux sur le côté qui s'était formé. Et donc, il a été glissé, le premier exemplaire de son livre, dans la fosse mortuaire de Gérard de Nerval, et il lui dédie ce livre, et il écrit: Gérard, souviens-toi de cette ruelle sombre, de cette fange, et surtout de cette crise. Sans cette corde, sans colérer autour de ton cou, pour te jeter dans une brutale fin noire, alors que tu allais, qui sait, enfin atteindre un merveilleux rêve du monde. Gérard, pourquoi n'as-tu pas attendu? Un lien à la mort de Gérard. Ensuite, en 60, il va nous donner le Chupador, qui aborde le thème du vampirisme avec un peintre qui peint avec le sang de ses victimes. Et puis, à partir de là, il arrête. C'est-à-dire qu'il y a très peu de romans, finalement. Il arrête parce que, en fait, il se rend compte d'une chose à laquelle je crois, moi, profondément, c'est que le fantastique, il n'est jamais aussi bien que quand il est court. Il faut aller à l'essentiel. C'est une encre de peur, donc il faut vraiment aller à l'essentiel de la peur. C'est pas la peine de partir dans des descriptions, dans des trucs, des machins. Vous le disiez, c'est une espèce de poésie, de poème en prose, et surtout avec sa langue, à Claude. Et donc, du coup, il a plus voulu écrire de romans, il a travaillé à densifier et à faire en sorte que ces textes soient vraiment rythmés et forts. Et plus c'est court, plus l'écriture est rythmée et dense, moins le lecteur a la possibilité de se reposer, c'est-à-dire de souffler. Hein. La description, elle permet ça, elle permet de dire « Ah, ouf, voilà, là, c'est même pas la peine, on est vraiment dans presque une forme moderne, je dirais, de cinématographique aujourd'hui, où des séquences s'enchaînent comme ça, où il n'y a pas de respiration dans ce genre, en tout cas. Et donc, il fait ça. Et donc, là, il va écrire une centaine de nouvelles. En 74, il décide d'écrire. Pourquoi? Parce que ça l'ennuie profondément. Il raconte que ça l'oblige sans arrêt à penser à ça. Il écrit d'ailleurs dans une espèce de petite biographie qui s'appelle L'homme nu. Il dit que je dois m'y rendre tout à fait cessante, me mets en ermite, en sauvage, ne plus voir, ne plus reconnaître personne, dans la crainte d'un bonjour trop bruyant, etc. Il faut que je sois dans mon bureau enfermé, je m'enfermais comme au fin d'un grenier, après avoir clos portes et fenêtres. Donc tout ça pour lui est vraiment trop, et donc du coup, il décide d'arrêter d'écrire. Mais le fait d'arrêter d'écrire ne l'empêche pas, de repenser, d'être dans une solitude très très bruyante, remplie de personnages. Alors, je vais vous lire ce qu'il écrit en 1974. Le drame est que lorsque l'on construit un roman, ou une araignée, ou un conte, on pense sans arrêt à son sujet. Et ce sujet finit par vous faire des misères. Alors on se lève la nuit pour écrire. Il faut toujours avoir un bloc-notes sur lequel jeter des pensées, parce que vos personnages se font des répliques entre eux, que vous découvrez soudain, alors que vous ne les avez pas suggérées, vous contentant de les mettre en situation. Je ne veux plus me lancer dans de nouvelles histoires. Je ne veux plus. Je ne veux pas me retrouver devant des feuilles de papier empilées blanches. Je ne veux pas combattre, parce que si je commence à écrire une histoire, elle se balade dans mon esprit, se cherche une fin, et m'oblige à noter tous les détails qui me viennent à l'improviste, n'importe où, la nuit, sans cesse. Il faut que je me relève pour écrire 4 lignes de peur de les oublier. Je ne veux plus repasser par ces tourments, me dit-il. Je ne veux plus. Et alors un jour, alors qu'on vient de parler de son inspiration, etc., alors, on est presque à la fin des entretiens, et il me dit, en rigolant, il me dit, vous savez, méfiez-vous parce que je suis un menteur. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je suis un menteur. Et puis il ajoute, mais n'est-ce pas là le minimum que l'on peut attendre d'un conteur? Lorsqu'on est écrivain, lorsqu'on est romanceur, on est par essence menteur, puisque l'on prend une feuille de papier pour concrétiser une idée que l'on doit habiller d'une histoire. Alors on ment les aventures de quelqu'un, même si l'on choisit de parler à la première personne. S'il n'y avait pas de mensonge, un auteur de roman policier serait un sacré type qui mériterait la peine de mort. En partant de ce principe, je suis donc un menteur. En étant menteur, je peux inventer ce que vous voulez à la demande. Aujourd'hui, mes elfes scribants ne travaillent plus pour moi, je me dois donc de prendre leur relais verbal et de raconter des sornettes. Le fait d'avoir cessé de remplir des rames et des rames de papier n'empêche pas mon imagination de gamberger et ma bouche de raconter. Voilà. Alors parfois, il me faut une bonne heure pour que tout ça se mette en place. Au début, je raconte des histoires bizarres, j'ai un peu l'esprit d'escalier, etc. Et puis petit à petit, je sens que les gens se laissent prendre à mon histoire, je la raconte mieux. Et puis là, il prend un air un peu plus sérieux et il me dit, écoutez, Marie-Charlotte, là maintenant, je vais vous faire une grande révélation. Je regarde si mon magnétophone marche bien, toujours. C'est un petit truc comme ça, à l'époque, c'était pas encore en numérique. Et j'attends la révélation. La voilà. Il y a mon âge, je pense que le temps des aveux est venu. Alors que je faisais une enquête dans le Gévaudan, je me suis trouvée sur une route allant d'un village à l'autre avec ma bicyclette. Soudain, j'aperçois un objet bizarre sur la chaussée, une vieille sacoche de cuir, comme l'une de celles qui auraient pu tomber d'une diligence. Elle semblait légère, mais ne l'était pas. Je l'ouvre, et à l'intérieur, je trouve des tas de papiers blancs, totalement vierges et très légers. Et il y avait des milliers et des milliers de feuilles. J'ai tout d'abord pensé que ce sac était tombé d'une voiture. Je suis donc allée au village suivant, afin de remettre l'objet à la mairie ou à la gendarmerie, mais le hasard voulut qu'il n'y ait pas de gendarmerie et que la mairie soit fermée. Alors j'ai gardé cette valise en me disant qu'après tout, personne ne m'avait vu, personne ne l'avait réclamé. J'ai continué ma route en voleur, un peu honteux de mon geste, conservant cette valise avec moi. En rentrant à Paris, j'ai sorti les feuilles de papier. Il y avait des tas de formats différents. Et j'ai soudain compris qu'en m'enfermant avec eux, en y pensant intensément, en les touchant, en faisant semblant d'y poser ma plume, j'allais faire renaître les histoires qui étaient secrètement écrites. Et les voilà qui sont apparues. La Malvenue, Marie Lalouve, Le Diable en sabot. Quelqu'un d'autre avait écrit ces textes, peut-être le diable. Voilà le secret de ce que j'ai écrit. Si je n'écris plus, c'est parce que maintenant, il n'y a plus rien dans le sac. J'ai tout révélé. Alors, Claude me raconte, alors il me raconte de cette histoire dans ce fameux grenier. Donc il a un immeuble, imaginez, un petit immeuble, pas très joli. Deuxième étage, il a son appart. Quatrième étage, il a son grenier. L'immeuble lui appartient en partie. Et donc, grenier, c'est-à-dire, il a fait ce grenier à l'endroit, avant c'était la maison de ses parents qui était là. Donc il a vendu la maison, il a fait construire un immeuble et il a gardé à l'étage où était le grenier, il a fait son grenier. Et donc c'est un appartement de 5 pièces, un peu là, mais qu'il a fait aménager pour lui. Et il l'a fait aménager avec des photos jour après jour. C'est-à-dire qu'il en a fait une espèce de caverne d'Ali Baba, une espèce d'endroit merveilleux avec des objets anciens, des machins, des plantes qui courent partout, des glaces, des tapis, des marches, on monte, on descend. C'est absolument fabuleux. Et c'est là qu'il reçoit, dans un petit coin, c'est vraiment une caverne merveilleuse. Et donc, ouais, il me raconte ça, je me doute bien qu'il y a une dimension métaphorique là-dedans, bon, qu'il n'a pas trouvé, mais je veux savoir quoi. Je me dis quand même, c'est bizarre. Alors je lui demande, je pose la question, je lui dis, ce papier, vous l'avez toujours, aux filles. Et bon, il est fait de rire, évidemment. Et il me raconte qu'il a tout inventé. Dommage pour le scoop littéraire, mais voilà Claude Seignolle. J'avais, parce que c'était très sérieux. Et Claude Seignolle aime à raconter que sa mère, pleine de bon sens périgourdin, disait de lui, ce sera ma conclusion, ne l'écoutez pas, c'est un original. Il raconte toujours des histoires, il ment, mais il en fait son métier. Et Claude de répondre, ne l'écoutez pas, elle prétend être ma mère, ce n'est pas vrai, mais elle y croit ferme depuis septembre 1916. Voilà pour Claude Seignolle, voilà un petit peu pour les quelques éléments à travers sa parole que je voulais vous faire partager. Et est-ce que vous avez, des questions? Est-ce que vous voulez la huche? Est-ce que...
Oui. Oui.
Oui. Oui, oui, quand il est, pendant toute une première, Marie-Noël me disait, sa fille, que pendant toute une partie, quand elle était petite, une partie de sa vie, il bougeait beaucoup, que c'était un amoureux des gens. Alors, de n'importe quel genre, ça pouvait être des gens, les prostituées des Halles, le bistrot machin, et puis il avait ce petit salon, il allait chez Cancelier, machin, et à un moment donné, il a voulu vraiment rendre, il est devenu l'ermite de Robinson. Mais il ne l'a pas toujours été, lui, il connaissait tout ça. Et bon, ça l'intéresse de loin, parce que je sais qu'à un moment donné, ben justement en 90, il y a une secte sataniste qui a publié un texte, etc., et qui s'est revendiqué de Claude Seignolle. Et il était très ennuyé, parce que Claude, à la fois, il est très intéressé par tout ça, mais c'est un type qui a les pieds sur terre. Il s'occupe toujours de ses affaires, il va avoir 100 ans, son patrimoine, il s'en occupe avec sa fille.
Ils se sont servis du bouquin, les évangiles du diable.
Oui, mais parce qu'il a écrit, voilà.
Voilà.
Parce qu'effectivement, à la demande de ton éditeur, il a fait un bouquin qui s'appelle Les évangiles du diable, dans lequel il a divisé un chapitre en duchés, et dans lequel il a mis tous les collectages du 19e, enfin bon, autour du diable. Voilà, il a ramassé tout ça. Alors c'est vrai que c'était un peu provocateur, les évangiles du diable, mais bon, Claude, c'est d'abord un grand gaillard qui s'amuse, quoi. Mais il aime bien tout ça, ça lui fait peur des fois, quand il dit le diable qui sert le casse-croûte pour pas qu'il le bouffe, c'est vrai, quoi. Voilà, on sait jamais, quoi. On sait jamais. Et quand il lui arrive des fois, il lui arrive des choses extraordinaires, des choses de bizarre, où il a peur, des coïncidences vraiment curieuses, et donc du coup il m'appelle et il me dit qu'est-ce que c'est ça, tout le temps, j'ai toujours vous voyé, excusez-moi, c'est un mouvement d'affection, et il me dit, bon, j'ai plutôt pensé, ça, je vais mourir, machin, mais non Claude, c'est bon signe, au contraire, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est curieux, vous voyez, terriblement curieux. Non, ben c'est bien, voilà, il est quand même très, mais bon, moi qui travaille là-dessus depuis 25 ans, pareil, voilà, on peut pas avoir des signes partout parce qu'on en connaît trop, mais en même temps, des fois, on se dit, ah, tiens, c'est curieux, ça, mais je regrette. Alors, quand il a arrêté d'écrire, il s'est mis à a collectionné un autre type de mémoire, sont les autographes. Et donc il a acheté par carton entier, en vrac, comme ça, des autographes. Et il a fait d'ailleurs dans ce fameux appartement, tous les murs sont remplis d'étagères peintes en rouge, sur lesquelles il y a des gros livres noirs qu'il a fait faire, dans lesquels il y a les autographes qui sont placés. Donc il y a la pièce des musiciens, il y a la pièce des faussaires, on a des... Il a par exemple une note de frais, je crois que ça s'appelle une facture, de la chevalière Déon. Il a la petite étiquette qui était sur la cuisinière de Landru au Procé. Il a tout un tas d'objets. Il a un inédit de Ravel. Il a tout un tas d'objets. Il a réuni des correspondances entre, par exemple, Pauline de Beaumont et René Chateaubriand. Il avait trouvé d'abord celle de Chateaubriand. Il a trouvé après celle de Pauline de Beaumont, qui était sa maîtresse. Il a relié les deux. Voilà. Il s'est entouré d'une mémoire de mort très vivante, finalement, à travers leurs écrits. Et quand ils pouvaient encore marcher, ce qui n'est plus le cas depuis quelques années, tous les matins, ils montaient dans cet atelier grenier, lieu magique, et dans une des pièces, ils travaillaient debout, il a toujours travaillé debout. Il travaillait debout et il faisait des collages, des machins, il te prend telle photo, il te met tel machin, telle fleur à côté. Voilà, avec ses autographes. Les livres d'autographes sont des livres qu'il a augmentés. La réalité augmentée aujourd'hui parce qu'il y a de l'autographe augmenté. C'est-à-dire qu'à côté, il y a la photo, il y a un petit texte, il écrit, machin, il raconte. Enfin, il est un des grands personnages du XXe siècle. Personnage au sens de un personnage. C'est bien ce que je dis. Non, mais vous voyez ce que j'entends par là. Quoi. Plus qu'une personnalité, vraiment quelque chose comme ça de crampé.
Encore
aujourd'hui, mais c'est...
Il n'était jamais angoissé.
Oh, si.
Si.
Je pense qu'il était quelqu'un qui était angoissé, oui, comme tout le monde, hein, et surtout quand il écrivait. C'est un paysan. C'est un paysan de Paris. C'est-à-dire qu'il a ce bon sens des paysans. Avec l'âme paysanne, elle a même en dehors des campagnes, elle a les pieds bien plantés en terre. Voilà. Et donc, je suppose que... Mais de toute façon, il ne veut pas beaucoup parler pour le numéro spécial là, que je suis en train de préparer. Il n'a jamais voulu parler, il ne veut pas parler de sa vie, il veut parler de sa légende. Et plus les gens racontent n'importe quoi sur lui et disent ça fait super mal aux yeux, c'est affreux là, c'est magique. Et donc, plus les gens racontent sur lui des choses qui ne sont pas passées, donc en Sologne, ils disent ah ben là, il y a une dame qui s'est tapée un jour, il est venu dans cette cour, et il voit ça dans la revue de la Sologne, il est venu dans cette cour et puis il a fait ceci, cela. Et par exemple, un jour, il est allé voir la petite fille de George Sand, Aurore Sand. Et puis Aurore Sand, elle lui dit, elle l'embrasse en partant, et elle lui dit, voyez, ça c'est, à travers le baiser que je vous donne, eh bien, c'est, je vous donne aussi celui de Lys, et celui de ma grand-mère, et celui de Chopin, et celui de machin, etc. Et Claude, immédiatement, il s'empare de ça. Il fait de la légende avec le baiser. De Sand que j'ai reçu, que j'ai moi-même donné à Henri Bourbeau. Voilà, donc je vais t'embrasser, je te donne baiser de genre de Sand de travers Aurore et tout ça. Et donc un jour, il était au Père Lachaise et il parle de ça à des Polonaises qui étaient là. Et donc du coup, les Polonaises ont reçu machin et ça a fait un truc en Pologne à la télévision polonaise, le baiser de George Sand, machin, voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un imaginaire poétique du quotidien. Tout autour de lui devient magique. Alors il faut le lancer, comme il dit, il faut le lancer un peu. C'est-à-dire qu'au début, il commence à parler comme ça de tout et de rien. Et puis petit à petit, ça part. Il n'en a pas fait profiter sa famille, il n'a pas fait profiter ses enfants. Il aurait été un conteur formidable, pourtant il n'aime pas les conteurs, mais il aurait été un conteur, pas les conteurs professionnels, il aurait été un conteur formidable parce qu'il est capable, le coup là, il l'avait pas préparé, le coup du papier, il le raconte. Et moi, je voyais dans ma tête qu'il avait mis ses papiers, je me dis, bon, c'est une métaphore, mais il a vraiment trouvé ses papiers, il s'est passé un truc en lui, il s'est dit, quoi, ses papiers, à partir de là, qu'il va écrire. Ben, j'étais déjà en train de monter une mécanique pour expliquer pourquoi ses papiers, comment j'avais laissé ça dans le bouquin et tout. Voilà, c'est rien. Et c'est vrai que, voilà, il manque, c'est pas du mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Au cours de sa vie, donc, plus on raconte de choses qui sont fausses, qui n'a pas été dit autour de lui, plus il est content. Voilà, parce qu'une légende, ça doit être déformée.
Il a développé un certain
parcours. Comment ?
Il a développé un peu partout.
Oui, mais à travers les autres, parce que lui, il n'est plus beaucoup sorti. Je me rappelle, il devait aller, il avait été invité à Apostrof, il a refusé d'y aller, il a envoyé un ami commun qui s'était rénové, qui était ethnologue, qui du coup a parlé de lui, et pas de Seigneur, mais je lui dis, il l'avait envoyé là. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, il se trouve pas bon. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut être le meilleur auteur du monde et ne pas le savoir. Et Claude, en fait, l'essentiel de la conversation de 20 ans, à chaque fois, il pose une question, quand même, on sait que là, je n'ai pas eu Claude, on sait que c'est bien écrit, on sait que machin. Parce que quand il était petit, celui qui était fort, c'était le frère, c'était pas lui. Et que sa mère ne l'a jamais reconnu. Et que ne l'ayant pas reconnu, comme étant machin, eh ben, il est toujours resté celui qui est mauvais à l'école. Mauvais en dictée, mauvais en machin. Donc il écrit mal. Donc il n'arrive pas, même s'il y a des thèses sur lui, même s'il y a des actes, il n'arrive pas à intégrer le fait que, mais oui, il est un des grands écrivains du XXe siècle en fantastique. Oui, il est l'un de ceux qui restera, il n'en restera pas beaucoup. Donc, ça ne peut pas rentrer parce que la mère, et l'histoire un peu merveilleuse que je n'ai pas voulu vous raconter, que vous l'avez raconté, c'est qu'un jour, on faisait une thèse sur lui, et le gars qui faisait la thèse, publie un bouquin, et lui envoie le bouquin. Et lui envoie le bouquin de Normandie, à Robinson. Et par un hasard, je ne sais pas le tout, mais le livre en question a fait un détour par l'autre bout de la France, avec des tambours, du village de la salle, avant d'arriver
chez eux. Pourquoi il a refusé d'aller à l'apostrophe?
Mais parce qu'il pense qu'il est mauvais, on dirait. Il dit, j'ai l'esprit d'escalier, il voit un moment. Je dis des bêtises au début, je dis ce que je disais dans le texte au début, voilà, je dis des banalités, des machins, et puis tout d'un coup, ça arrive, et tout d'un coup, voilà, je sens que j'arrive à prendre les gens, que je deviens bon, mais il ne se trouve pas bon à l'oral. C'est pour ça qu'ils disent, on ne reçoit pas les groupes, que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les gens à l'unité. Pour bien les attraper dans leur. Voilà. Dans une, que sa parole dévie pas. S'il y a deux, trois personnes, la parole peut dévier. Mais là, on est deux, on est en face à face, et la parole ne dévie pas. C'est-à-dire que c'est. Voilà, on n'est pas pour l'écouter, on l'écoute, on répond, mais il peut rester. Mais non, il n'aime pas ça. Et puis, non, il s'amusait tout seul dans son. Il a arrêté d'écrire aussi sur le 14, il était plein de soucis, il a vendu des millions d'exemplaires chez Marabout. Il a arrêté de faire pour le prix, ça avait marre. Voilà, il voulait passer à autre chose.
Justement, c'est le succès, je vois plutôt penser qu'il avait plutôt découvert, parce qu'en tant qu'autre en France, le fantastique, ça ne se vend pas bien, ça ne se vend pas. Je pense que ses premiers livres, ça, il a les amis qui ont été
publiés. Ah oui, non, mais il a monté sa propre édition pour en publier certains qui étaient impubliables. Mais après. Ah oui, non, puis surtout l'intelligentsia de la SF, avec Guamard et autres, l'ont mis plus bas que terre, en disant qu'il trouvait mal, etc. Et donc, il en a beaucoup plus. Quand il y a eu le colloque de Cerisy sur le Tignol, moi, il m'avait appelé, je refusais d'y aller, parce que je me faisais drôle, il était vivant, que c'est vrai, c'est bizarre. J'avais dit non. Et puis, il se trouve que deux jours avant, Claude m'appelle, il me dit panique à bord, a une conférence avec moi. Ah, c'est horrible, il va me, va me descendre. Machin, je peux encore descendre. Il faut pas encore qu'il sorte. Total, le lendemain, je faisais ma valise. Je passais la nuit à faire un papier sur le fantastique paysan de Seigneur. Et le lendemain, je partais à Cerisy. Et que je suis le défenseur de Claude, toujours. Et j'allais, mais à l'époque, tous ces auteurs-là, disaient les anthologies de la science-fiction du fantastique, ils méprisaient Seigneur parce que c'était un fantastique paysan. Il n'avait rien compris au film, il n'avait plus de culture folklorique, donc ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était en train de se passer. Or, dans leur anthologie, ils vont mettre un tas de gens qui vont disparaître pendant 2 siècles, Claude ne disparaîtra pas parce que justement, il est entré dans une vérité folklorique qui est forte, qui a disparu, qui est donc. Il leur en a beaucoup voulu, ça l'a atteint. Et ça, lui qui déjà ne se sentait pas légitime dans l'écriture, vilain petit canard de sa famille, s'est senti encore moins légitime avec tous ces gens qui lui tapaient dessus. Ça lui a fait beaucoup de mal et ça a renforcé cette idée-là. Et même après, quand il a vendu, je crois que c'est compliqué, il est compté par livre, il y avait toutes les ventes, donc il est arrivé à 50 000. Mais il y a un traducteur américain en ligne il y a 15 jours, il a été traduit partout.
Mais ça a été traduit récemment. Parce que je sais qu'il y a eu une traduction en Angleterre, qui est déjà très ancienne.
Ah non, c'est pas récemment, c'est à l'époque. Là, c'est votre fils qui a posé une revue à Harvard, je ne sais pas où, et il disait cette revue-là, est-ce qu'on pourrait avoir le droit de mettre une nouvelle photo, donc il est revenu par le traducteur et tout ça. Mais bon voilà, mais c'était. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de. Pas légitime et qui
se trouve.
On a un hommage au Feu de Seigneur et on est très très peu nombreux. Oui, c'est un truc de copain, machin.
Il a été utilisé au maximum, c'est sa traduction.
Oui, voilà.
C'est vraiment le travail d'universitaire.
Et Claude, c'est un
seul vivant, dit pas la manière de faire un autre sujet.
Et Claude, c'est pas une idée, c'est un poète. Voilà. Un poète paysan, un fantastique paysan, mais c'est pas du tout. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bravo, merci à vous.